Bonjour à tous. On raconte l'histoire suivante. À la veille d'une bataille décisive durant la guerre d'indépendance du XVIIIe siècle aux États-Unis, un gradé se promenait au milieu de ses troupes. Et en se promenant, il aperçoit un groupe de soldats qui poussait avec grande peine, un canon pour la bataille. Il s'approcha d'eux, prit un morceau de la corde et tira avec eux ce canon. Et à côté d'eux, un caporal criait et donnait ses instructions. À un moment donné, le gradé se retourne vers le caporal et lui dit « Et si vous nous aidiez ?» Mais celui-ci répondit avec condescendance « Moi ? Mais je suis caporal !»« Bien, lui dit l'autre. » Un peu plus tard, quand tout cela fut terminé, ce gradé revint voir le caporal et lui dit « Si jamais vous avez encore un ouvrage pénible, venez me chercher. Je suis George Washington. » George Washington qui était le chef d'état-major de l'armée continentale à cette époque et qui plus tard est devenu le premier président des États-Unis. George Washington a donné, je crois, une belle leçon d'humilité à ce caporal si orgueilleux. Moi, je suis caporal, ce n'est pas un travail pour moi. Et la Bible nous parle à de nombreuses reprises de l'orgueil et de l'humilité. Et ce matin, j'aimerais justement parler de ce sujet-là, de l'orgueil et de l'humilité, pardon, à travers deux personnages qui sont, la Bible nous le montre en tout cas, quelque part la personnification de l'orgueil et la personnification de l'humilité. Ces deux personnages, je pense que vous l'aurez compris, c'est Satan qui a été rempli d'orgueil et c'est Christ qui, lui, a été animé par l'humilité en venant sur cette terre. Et pour cela, je voudrais qu'on prenne deux textes, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, deux textes qui, d'une certaine manière, se font écho et où il est intéressant de voir le comportement de Satan et le comportement de Christ à l'opposé. Je vous invite à lire le premier texte dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes les espèces, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes flûtes étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Tu étais un chérubin ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à violence, qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Je t'ai expulsé, chérubin protecteur, du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli. Et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires. Et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante. C'en est fini de toi, oui, fini pour toujours. Et deuxième texte, qui fait un peu écho à ce texte, il me semble en tout cas, on le trouve dans Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 6. Philippiens 2, verset 6. Qui parle bien sûr de Christ, là. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». À travers ces deux textes, mon ambition ce matin, c'est de nous montrer, en tout cas je crois que c'est ce que la Bible veut nous montrer, que l'orgueil mène à la ruine, alors que l'humilité, elle, mène à la vraie gloire. Quand on regarde ces deux textes, on voit des conditions semblables pour ces deux personnages, pour Satan et pour Christ. Dans le passage qu'on a lu dans Ézéchiel, Ézéchiel s'adresse à un roi, le roi de Tyr. À cette époque-là, il s'agit d'Itobal II, pour la petite histoire. Mais le prophète, au-delà de ce roi, a en vue aussi l'état d'esprit du royaume de Tyr. Et Tyr, c'était un royaume un peu particulier. C'était un peu le « Monaco » entre guillemets de l'époque. La ville de Tyr avait été construite sur un rocher. Tu peux montrer l'image ? Donc ça, c'est les vestiges actuels de l'ancienne Tyr. La ville de Tyr avait été construite sur un rocher, en limite de la mer. Et elle avait un commerce très prospère. C'était la cité des riches, on peut dire ça comme ça. Et quelque chose un état d'esprit orgueilleux. On est de Tyr. Ça voulait dire quelque chose, ça signifiait quelque chose à cette époque-là. Mais au-delà du roi, au-delà de l'état d'esprit qui animait cette ville de Tyr, on ressent que ce texte d'Ézéchiel a une portée qui va beaucoup plus loin. Certains mots, certaines descriptions ne semblent pas convenir à quelque chose, à quelqu'un, un être humain ou quelque chose de cette terre. Et beaucoup pensent qu'Ézéchiel, quand il évoque ce roi de Tyr, évoque Satan et sa condition avant sa chute. Si on lit le premier verset de ce passage, du verset 12 au verset 15 à peu près, on se rend compte que le quotidien de Satan, l'ordinaire de Satan avant sa chute, c'est l'extraordinaire tout simplement. Il avait d'abord un aspect extérieur extraordinaire. Le texte nous dit qu'il était d'une beauté parfaite. On a peut-être été habitué à voir une image de Satan un peu grotesque, du genre les petites cornes, le trident et choses comme ça. C'est un peu l'idée qui circule dans la pensée contemporaine aujourd'hui. Ce n'est pas une idée biblique du tout. Non, la Bible nous apprend qu'il y avait en Satan une beauté extraordinaire. Un « waouh » quand on le voit. Une beauté angélique, incomparable. Ses habits aussi étaient tout aussi extraordinaires, à faire saliver et rêver toutes les femmes ici présentes. On le voit, 9 pierres précieuses. Il y en avait, je ne les connaissais même pas, certaines de ces pierres précieuses. Recouvert de pierres précieuses de la tête aux pieds, si on peut dire. Un habit incroyable, un habit qui peut-être montrait la gloire, une forme de gloire qui reposait sur Satan. Un commentateur à propos de ces 9 pierres précieuses a vu que parmi ces 9 pierres précieuses, ces 9 pierres précieuses se retrouvent aussi sur le pectoral du souverain sacrificateur, qui en avait 12 lui, quand il se présentait devant Dieu. Et quelque part, ce commentateur fait la conclusion, c'est que peut-être ça montrait aussi une certaine forme de sainteté qui habitait Satan à cette époque, avant sa chute. Donc, quand on voyait Satan, on voyait un être glorieux, un être qui possédait une certaine sainteté. Il avait aussi un aspect intérieur extraordinaire, Satan. Son aspect intérieur est en totale adéquation avec son aspect extérieur. Sa perfection va au-delà de l'aspect physique. Elle touche aussi l'aspect intellectuel, l'aspect moral. Il possède, il nous est dit, une grande sagesse. Ce n'est pas pour rien que plus tard dans les évangiles, dans ses lettres, Paul nous met en garde « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Satan est un être plein de sagesse. Il est dit aussi dans ce texte d'Ézéchiel qu'il était d'une intégrité sans faille. Il était parfaitement saint, entre guillemets, totalement intègre. Dieu lui dit, au verset 15, « Tu as été irréprochable. » À qui d'entre nous Dieu pourrait-il dire ça ? Tu as été irréprochable. Pas à moi, en tout cas. Et le dit à Satan. Troisième point, il habitait un lieu extraordinaire. L'environnement qui l'entoure est merveilleux. On en prend plein les yeux, toutes ces pierres précieuses, les sens aussi, l'image de ces instruments de musique. Satan est placé en Éden, il nous est dit. Était-ce ce jardin d'Éden avant que l'homme et la femme n'y habitent ? On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est dans une proximité, dans une intimité avec Dieu extraordinaire. Il est sur la montagne sainte de Dieu, le texte nous dit. Qui n'aimerait pas habiter un tel lieu ? Un lieu extraordinaire. Il remplissait enfin une fonction extraordinaire. Satan était un chérubin protecteur. Alors qu'est-ce que c'est un chérubin ? Les chérubins sont une classe d'anges qu'on retrouve à divers endroits de la Bible et dont la fonction semblait être une fonction de protection. Par exemple, au tout début de la Genèse, après la chute d'Adam et d'Ève, quand Dieu les a expulsés du jardin d'Éden, il nous est dit qu'il y avait des chérubins protecteurs, devant l'entrée du jardin d'Éden, pour protéger le jardin. Et on retrouve des chérubins à d'autres occasions aussi dans la Bible, avec cette même fonction de protection. Il semble que Satan, alors on met toujours des guillemets, on ne peut pas tout dire, mais il semble que Satan était l'ange le plus élevé dans cette hiérarchie de chérubins. Satan se tenait devant la présence même de Dieu. Il avait apparemment le privilège d'être le gardien suprême de la sainteté, de la majesté de Dieu. L'allusion aux instruments de musique fait dire aussi à certains commentateurs qu'il était peut-être l'organisateur de la louange céleste pour Dieu. Devant une telle description, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je reste ébahi. C'est incroyable, extraordinaire. Satan joue une beauté, d'une sagesse, d'un environnement et de privilèges exceptionnels qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons vivre. Il occupait une place toute particulière. Il était peut-être la plus belle créature de Dieu. Le sommet de la création, son chef-d'œuvre, peut-être. Et c'est justement là, sur ce point-là, sur ce détail, entre guillemets, mais tellement important, qui est souligné à deux reprises dans le texte qu'on a lu, en Ézéchiel, qui est une leçon importante. Satan était une créature. Il a été créé. Malgré toutes les conditions extraordinaires qu'il avait, il y avait une différence nette entre lui et Dieu. Satan est une créature, Dieu était le créateur, est le créateur. Satan était une créature devant son créateur. Malgré tout ce qui a été dit, Satan n'est pas de la même nature que Dieu. Il n'est pas comme Dieu, il est une créature et comme toute créature, il est limité. Par exemple, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'a pas tout pouvoir. Donc des conditions glorieuses, extraordinaires, mais une différence avec Dieu. Et c'est important de bien saisir pour la suite. Après avoir vu les conditions de Satan, il est intéressant de se tourner vers les conditions de Christ avant son incarnation. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la gloire de Christ avant son incarnation, mais j'aimerais juste tenir sur deux points qui sont révélés au verset 6 de Philippiens 2. Juste ces deux aspects principaux. D'abord, il nous est dit que Christ était de condition divine, de toute éternité. Le texte nous dit que Christ est de condition divine. D'autres versions, peut-être que vous l'avez dans votre Bible, nous disent qu'il était de forme divine. Il est important de bien comprendre cette expression. Dans notre esprit, dans mon esprit en tout cas, les mots condition ou forme peuvent suggérer quelque chose de semblable, mais pas tout à fait pareil. Pas complètement pareil. Par exemple, on voit tous une poire ici. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est une image d'une poire. Est-ce que c'est vraiment une poire ? Ça a la forme d'une poire, ça a la condition a priori d'une poire, mais ce n'est pas vraiment une poire. Et dans notre idée, peut-être qu'on peut se croire que quand l'Écriture nous dit qu'il était de condition divine ou de forme divine, Christ n'était pas vraiment complètement Dieu. Et c'est ce que certaines sectes, parmi les témoins de Jéhovah par exemple, enseignent. C'est que Jésus était un Dieu avec un D mineur, plus faible que le Père. Il n'était qu'une image, qu'une forme de Dieu. Non, le mot hébreu utilisé ici parle vraiment de quelque chose qui a la même nature que Dieu, quelque chose qui a de même égalité. Et si on a encore des doutes, le verset suivant, la suite du verset nous montre clairement. Il dit, il ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Et là encore, le terme grec, je crois que j'ai dit hébreu avant, c'est pas en hébreu, c'est en grec ici, le terme grec utilisé a une connotation qu'on ne peut pas retrouver dans le français. Ça signifie quelque chose d'égal, mais complètement égal, en termes de nature, en termes de position, en termes de stature. quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans notre égal à nous, un égal un peu spécial. Christ est donc l'égal de Dieu le Père. Il est pareil en termes de taille, de qualité, de caractéristiques. Pas la moindre différence entre Jésus et son Père. Il est à tout de point de vue égal à Dieu. Comme il le dit lui-même en Jean 14, verset 11, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Une égalité claire et nette. Les conditions de Christ et de Satan étaient semblables sur bien des points. Alors bien sûr, comme je l'ai souligné, Satan est une créature. Jésus est l'égal de Dieu. Il y a une différence. Mais les conditions, tous les deux vivaient des conditions extraordinaires, incroyables. Des conditions semblables. Des choses qui vont au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer nous-mêmes. Mais devant ces conditions semblables, leur réaction, leur attitude va être différente. L'un va être prêt à perdre sa gloire. Il s'agit de Christ, bien sûr. L'autre va être prêt à tout pour gagner plus de gloire. Il s'agit de Satan, bien sûr. L'un va être rempli d'humilité, l'autre va être rempli d'orgueil. L'orgueil de Satan. Après une succession de descriptions concernant les conditions de Satan qui sont extraordinaires, incroyables, qu'on ne vivra jamais, peut-être au ciel, il est dit, la sentence tombe au verset 15, « Jusqu'à ce que le mal soit trouvé chez toi. » Jusqu'à ce que le mal soit trouvé chez toi. Les versets suivants décrivent le mal qui était trouvé en Satan. Il est question d'un commerce qu'il a entraîné dans le péché, au verset 16. Il semble que Satan a profité de sa position d'élite parmi les anges de Dieu pour tirer quelques avantages personnels, pour utiliser ses activités à sa propre promotion. La face sombre de Satan est ainsi apparue, comme le révèle la suite du passage. Violence, malhonnêteté, souillure. Ce péché n'a pas été un événement unique dans la vie de Satan, un événement regrettable. Au contraire, Satan s'est plongé dans le péché. Au verset 18, il est écrit qu'il y a une succession de péchés. Il est aussi surtout question, au verset 17, que Satan s'est enorgueilli. Le péché de Satan, celui qui a provoqué sa chute, c'est l'orgueil. L'apôtre Paul, en évoquant un aspect de la vie d'Église, est très clair là-dessus. En 1 Timothée 3, verset 6, il dit que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. La condamnation sous laquelle est tombé Satan, c'est l'orgueil. Un autre prophète nous éclaire encore mieux sur le péché d'orgueil de Satan. Il s'agit d'Ésaïe. Je vous invite juste à prendre Ésaïe 14, versets 13 à 14. Où encore une fois, le prophète s'adresse à un autre personnage, mais derrière, on sent en filigrane Satan. Il écrit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. » Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet du nuage. Écoutez bien, je serai semblable au Très-Haut. Satan a perdu la tête. Il avait des conditions extraordinaires qu'aucun de nous n'aura jamais sur cette terre. Mais il n'était qu'une créature. Il en voulait encore plus. Je serai semblable au Très-Haut. Ce qui a perdu Satan, c'est son orgueil d'aller encore, d'avoir une gloire encore supérieure, de vouloir encore quelque chose de plus. Il voulait prendre la place de Dieu, ou au moins devenir son égal. Satan voulait acquérir la même puissance, la même autorité que Dieu. Il ne voulait plus adorer. Il voulait être adoré. Et entre parenthèses, c'est intéressant de noter que c'est une proposition semblable de Satan à Adam et Ève qui a provoqué la chute de l'homme et de la femme. Rappelez-vous, en Genèse 3, verset 5, Satan qui dit à l'homme, et à Ève surtout, et à l'homme qui était derrière, hein, bien sûr, « Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Ce même désir, être comme Dieu, avoir plus de gloire, c'est ce désir-là qui a provoqué la chute de Satan, c'est ce désir-là qui a provoqué la chute d'Adam et Ève, et notre chute à chacun. À l'inverse de Satan, la gloire de Christ, encore plus extraordinaire, son égalité totale et complète avec le Père, ne lui a pas fait perdre la tête. Bien qu'il jouissait de tous les droits, privilèges, honneurs en tant que fils de Dieu, Christ n'a jamais donné l'impression de s'accrocher de toutes ses forces à ses privilèges, à ses avantages, à sa position. Au contraire, elle a fait le choix de s'humilier. Le texte de Philippiens 2 nous le rappelle avec force et on remarque deux étapes dans l'humiliation de Christ durant sa vie terrestre. D'abord, au verset 7, est écrit « Christ s'est dépouillé ». Il s'est d'abord dépouillé. Littéralement, le verbe utilisé ici signifie que Christ s'est vidé lui-même. Il insiste sur le fait que ce dépouillement est un acte volontaire, un acte de libre arbitre. Ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé par personne, ni même par son Père. C'est Christ qui l'a décidé lui-même de se dépouiller. Mais la question qui vient, mais de quoi s'est-il dépouillé? De quoi Christ s'est dépouillé? Certains ont osé affirmer que Christ était moins divin durant son incarnation. On a enseigné que pendant son incarnation sur terre, Jésus avait une très grande connaissance, mais pas toute la connaissance. Qu'il était puissant, mais pas tout puissant. Et je crois que c'est malheureux d'en arriver à des conclusions comme celle-ci. Parce que si Jésus n'était pas complètement Dieu au moment où il est monté sur cette croix, alors son sacrifice n'a plus de valeur. Et on peut tous rentrer chez nous. Il n'y a plus d'espoir. Christ avait besoin d'être totalement Dieu pour monter sur cette croix et pour se sacrifier pour chacun d'entre nous. Alors quel est ce dépouillement? Pour comprendre le dépouillement de Jésus, il faut bien saisir une différence importante entre la nature même de Christ, ce qu'il est au plus profond de lui, ce qui le compose, ce qui le fait, et sa position. La nature et sa position. Sa position en tant que fils de Dieu. Il faut distinguer l'égalité entre Christ et son Père en tant que personne et la position d'égalité de Christ avec son Père. Concernant sa personne, Christ a été, est et sera toujours l'égal de Dieu. Il lui est impossible d'y renoncer. Ça fait partie de sa nature, c'est lui. Mais concernant sa position, c'est différent. Christ a de toute éternité occupé une position d'égalité avec son Père, à part lors de son incarnation, où il a abandonné cette position d'égalité. Sur terre, Jésus a connu des circonstances de vie bien inférieures à ce que pouvait vivre le Père. Il n'était plus dans la même position que Dieu, mais il était toujours de même nature que Dieu, le Père. Bien sûr, depuis son retour auprès du Père, il a retrouvé cette position d'égalité. Le dépouillement de Christ ne touche donc pas à sa personne. Christ n'a renoncé à aucun des attributs de sa divinité en venant sur terre, mais il s'est dépouillé de sa position de fils de Dieu, sa position d'égalité avec Dieu. Comme le dit William MacDonald, la gloire était totalement présente, quoique cachée. Pour devenir homme, Christ a dû se dépouiller de sa position antérieure à l'incarnation, sans cependant porter atteinte à sa personne en elle-même. Il ne pouvait pas devenir humain en conservant sa position de gloire, mais il le pouvait en conservant sa nature divine. Pour illustrer un peu ça, imaginons un policier. Il a son habit de policier dans la semaine, il est avec l'autorité qui va avec. Le week-end, il est en week-end comme vous et moi peut-être, il n'a plus son habit de policier. Il n'a plus cette autorité avec lui. Il était policier la semaine, mais policier le week-end, mais il n'a plus la position de policier. Est-ce que pour autant, ça a changé quelque chose entre la semaine et le week-end quand on sa nature humaine? Il est tout autant humain la semaine que le week-end, même si parfois quand il nous verbalise, on se demande s'il est vraiment humain. Mais il est toujours humain, toujours homme. Et c'est un peu la même notion, bien sûr, à imager par rapport à Christ. Christ a toujours été de nature divine, mais là, il est sorti de cette position de Dieu, d'égalité avec Dieu. Le dépouillement de Christ est donc en lien avec sa position, son rang, ses privilèges. Il a renoncé à quoi, Christ, alors? Il a renoncé à la gloire céleste. Pendant son incarnation, il n'a plus pu profiter de la gloire céleste. Et d'ailleurs, elle est cachée durant tout son ministère terrestre. Peut-être qu'il y a un événement où on voit vraiment la gloire de Christ, un événement que vous aurez reconnu, bien sûr, la transfiguration. Peut-être le seul moment où Christ a montré un peu de sa gloire à ses disciples. Mais pendant tout le reste, elle a été cachée. Il a renoncé à cette position de gloire. Il a renoncé à ses droits en se faisant serviteur pour les autres, esclave. Le roi des rois est devenu serviteur. Il a renoncé aussi à ses prérogatives divines. Il a refusé de se servir de certains de ses attributs divins pour rendre sa voie plus facile. Et on voit à certaines occasions, il aurait pu faire appel à des anges. Il aurait pu manifester une plus grande puissance. Il a décidé de restreindre sa puissance. Il a renoncé à certaines de ses prérogatives divines. Et c'est de ça qu'il s'est dépouillé aussi. Demandez à un homme comme Barack Obama d'échanger sa position avec la vôtre. Ou mieux, avec un SDF, comme l'était Jésus. Ou alors demander à un homme comme Bill Gates de venir travailler dans une entreprise de charpente et de vivre comme un smicard. Impossible. Impossible à vue humaine. Pourtant, c'est ce que Christ a fait, et d'une manière bien plus extraordinaire encore que ces notions-là, des choses qui dépassent l'entendement. Le roi des rois, le tout-puissant, qui se fait homme, esclave. Christ, dans un deuxième temps, on le voit au verset 8, après s'être dépouillé, s'est aussi abaissé. Christ s'est abaissé lui-même. Et encore une fois, Paul répète le pronom « lui-même » pour bien signifier que c'est une décision personnelle de Christ de s'abaisser. Personne n'a forcé Christ à s'abaisser, c'est lui qui l'a décidé et l'a choisi. Comment s'est-il abaissé? En devenant d'abord obéissant. Le simple fait de devoir obéir équivaut à s'humilier pour Christ. Pendant son incarnation, il s'est soumis au Père. Pour un être tout-puissant, ce n'est pas un détail, quelqu'un qui est tout-puissant, qui s'humilie et qui se soumet. Et bien sûr, le partage qu'on a fait juste avant, en subissant la mort sur la croix, c'est là où il s'est abaissé le plus, la crucifixion marque le fond de l'abaissement de Jésus. La croix est le plus grand symbole d'humiliation pour Christ. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus n'a même pas pu revendiquer ses droits les plus fondamentaux en tant qu'être humain. Rappelez-vous, il était juste. Il n'y avait aucune raison qu'il soit condamné. Même ça, il y a renoncé. Ses droits fondamentaux en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Il s'est humilié en se soumettant à la persécution, aux souffrances. Il a atteint le point le plus bas de l'humiliation en mourant comme un criminel, alors qu'il ne l'était pas. Des conditions semblables, des attitudes différentes, des conséquences opposées aussi pour tous les deux. Satan est tombé dans l'orgueil et le péché, Christ a choisi de s'humilier volontairement. Leur attitude a eu des conséquences à l'opposé, la ruine pour Satan. Devant l'orgueil de Satan, son désir injuste de prendre une place qui ne lui revenait pas, Dieu va répondre par un jugement puissant, exemplaire. Il est écrit que Satan est expulsé de la présence de Dieu. Sa relation avec Dieu est coupée, brisée. Il est écrit que Satan est réduit en cendres. De toute éternité, le jugement de Dieu à l'encontre de Satan a été rendu. Et même si encore aujourd'hui, il peut agir en trompant, en nous détournant de la voie que Dieu veut nous voir suivre, son jugement est déjà posé. Satan est réduit en cendres. Rien de ce qu'il pourra faire ne changera ce fait. C'est la ruine qui attend Satan, et non la gloire qu'il espérait tant. C'est la ruine qu'il attend. Et ce jugement de Satan est un exemple pour nous, comme Ézéchiel le souligne avec force à la fin de ce passage. L'orgueil ne peut mener qu'à un seul chemin, celui de la ruine, comme pour Satan. À l'inverse de l'orgueil de Satan, qui l'a amené à être jugé par Dieu, l'humilité de Christ va l'amener à la gloire. Son humiliation n'a pas donné une gloire à Christ qu'il n'avait pas auparavant. Christ a toujours été glorieux. Mais je crois qu'il faut lire cela comme un nouveau relief à sa gloire. Il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ a été élevé. Il était déjà élevé avant. Alors pourquoi dans quel sens il a été élevé de nouveau? Il me semble, d'après les commentaires que j'ai pu lire, et c'est l'interprétation qui me semble la meilleure, c'est que si Christ n'avait pas vécu parmi nous, si Christ n'était pas mort sur cette croix, malgré toute sa puissance, malgré toute son élévation, il n'aurait jamais pu être le grand souverain sacrificateur pour nous. Il n'aurait jamais pu être le substitut pour le péché, pour chacun d'entre nous. C'est son sacrifice qui donne un nouveau relief à sa gloire. Parce qu'à travers ce sacrifice, Jésus est maintenant notre grand avocat auprès du Père. Jésus est maintenant le substitut du péché pour chacun d'entre nous. Et ça n'était pas le cas auparavant. Il est dit aussi que Christ a reçu un nom. Il a reçu le nouveau nom de Seigneur, qui connote son égalité avec Dieu. Et ainsi devant lui, tout genou s'agenouillera, toute langue confessera, tout le monde, même la langue de celui qui l'aura régné toute sa vie, même Satan devra confesser que Jésus est Seigneur et devra plier le genou devant sa majesté. Que faire de ce que Dieu nous révèle à propos de l'orgueil de Satan et de l'humilité de Christ? Quelle leçon Dieu veut nous apprendre à travers ces deux vies, débutées dans des conditions semblables et conclues à l'opposé l'une de l'autre? Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. D'abord, c'est que l'humilité est le chemin vers le salut. L'exemple de Satan nous montre, de la manière la plus claire qui soit, que l'orgueil précède la chute. Au fond, quel est le péché qui empêche bien souvent l'homme de se tourner vers Dieu et d'accepter le salut offert par Christ? C'est l'orgueil. L'orgueil de se croire bon, assez bien. L'orgueil de se croire autosuffisant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui éloigne tant d'hommes et tant de femmes de Dieu. L'orgueil est une source de jugement. L'orgueil tue. Dans les contrées du nord du Canada, on raconte l'histoire de deux oies et d'une tortue qui avaient développé une forte amitié. Au fur et à mesure que les nuits devenaient plus courtes et plus fraîches, les oies commençaient à parler de voler vers le sud pour y passer l'hiver. Un soir, alors que ces trois animaux étaient serrés les uns contre les autres, les oies se soucièrent ouvertement de la situation de leur amie la tortue. « C'est sûr que tu vas nous manquer, » dit l'une des oies. « Comme tu ne peux pas marcher vers le sud pour y passer l'hiver, que vas-tu faire ?»« J'ai une idée, » dit la tortue. « Pourquoi ne pas trouver un bon bâton que vous puissiez tenir dans votre bec ? Je m'accrocherai au milieu du bâton avec mes dents puissantes. Ainsi, quand vous volerez vers le sud pour y passer l'hiver, je volerai avec vous. » « Penses-tu avoir assez de force pour t'accrocher aussi longtemps ?» demanda l'autre oie. « Bien sûr, je suis très forte, » dit la tortue. Quelques semaines plus tard, quelque part au-dessus du Montana, un fermier leva les yeux et vit la chose la plus incroyable qu'il n'eut jamais vue. J'ai pas d'image pour vous. J'ai pas envie de photo, c'était pas moi le fermier. Il se précipita chez lui, le raconta à sa femme. Quand elle courut dehors et vit deux oies voler au-dessus de la tête avec un bâton dans leur bec et une tortue accrochée entre elles, elle s'écria « C'est incroyable ! Qui a eu une telle idée ?» Sachant que c'était son idée, la tortue ne put résister et s'écria « C'est moi !» Et la tortue tomba. L'orgueil tue. L'orgueil tue car il nous empêche de nous rendre compte de notre besoin de Dieu. L'orgueil tue car il nous empêche de nous rendre compte de notre incapacité à accéder au salut offert par Christ. On ne peut que s'approcher de Christ le cœur humble. C'est le seul moyen de s'approcher de Christ. Parce qu'on a saisi qu'on était pécheur, qu'on ne pouvait rien faire seul, qu'on était dépendant de la grâce de Dieu. L'humilité est le chemin vers le salut. Un cœur orgueilleux est incapable de se tourner vers Christ pour dépendre de lui. Un cœur humble cherche une solution à sa vie et peut trouver Christ. L'Écriture est formelle. Elle dit en Jacques 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Nous sommes tous, et je crois pouvoir le dire, des orgueilleux. L'humble est donc nécessairement un orgueilleux qui s'est humilié. Nous sommes humiliés un jour pour beaucoup parmi nous, pour nous tourner vers Christ. Et nous avons besoin souvent de nous humilier à nouveau pour revenir vers Christ. D'oublier notre orgueil profond qui nous tue dans beaucoup de situations. Ce n'est jamais parce qu'on se croit meilleur en tout cas, ou plus digne qu'un autre qu'on reçoit le salut de Dieu. C'est tout le contraire en fait. C'est parce qu'on se reconnaît comme pécheur, qu'on s'humilie, que nous pouvons recevoir le salut de Dieu. Deuxième leçon que j'ai pu voir dans ce passage, c'est que l'humilité précède l'élévation. C'est parce que Christ s'est élevé et abaissé, s'est humilié, pardon, et abaissé, que sa gloire a reçu un nouveau relief. Nous serons aussi exaltés de la même manière, comme le dit Paul en Romains 8, verset 18. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et, attention, la gloire qui va se révéler en nous. » Si nous cherchons à être élevés sur cette terre, nous serons abaissés dans les cieux. Si nous cherchons à gagner notre salut tout seul, par nos mérites, par nos bonnes œuvres, la Bible nous dit que nous perdrons. L'orgueil produit tout ce qui fait que la vie débouche sur un échec. Parce qu'à cause de notre orgueil, on ne pense qu'à soi. Et on y reviendra un peu après. On n'est pas ouvert aux autres. Et on casse. Au contraire, l'exemple de Christ nous montre que pour être élevé, il faut savoir s'abaisser et s'humilier. L'humble ne s'attend à rien et reçoit finalement tout, la gloire céleste, la vie éternelle. L'orgueilleux, lui, s'attend à tout, ne reçoit finalement rien, l'enfer, l'amour éternel. Parce que quand on est orgueilleux, les choses nous paraissent normales. C'est normal qu'on me donne ça, c'est normal qu'on me serve. Et je veux encore plus de gloire. Et on voit la vie tellement dans un sens... c'est normal, encore plus. Mais quand on est humble, on rend grâce à notre Seigneur. On rend grâce à ceux qui nous entourent. La perspective de la vie est bien différente. Et là, la Bible nous encourage dans cette perspective de vie à vivre une vie dans l'humilité. Parce que c'est le vrai secret du bonheur. Et troisième leçon que j'ai pu voir, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas vous tenir jusqu'à cet après-midi. L'humilité donne un regard différent. À propos de Satan, il nous a dit qu'il s'est enorgueilli de sa grande beauté. Comment Satan a fait pour s'enorgueillir de sa grande beauté? Mais il a pris un miroir, il s'est regardé. Ah, je suis pas mal. Comment on peut s'enorgueillir? C'est quand on regarde à soi. Je regarde à moi. À propos de Christ, il nous a dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié comment? Parce qu'il a regardé aux autres. Il a regardé aux hommes, à sa création. Il eut pitié d'elle. Et c'est ainsi qu'il a pu s'humilier, qu'il a décidé de s'humilier. Christ a tourné les regards vers les autres. Satan a tourné son regard vers lui-même. L'humilité donne un regard différent, je crois, sur les choses. Vers où se tourne ton regard? Vers où se tourne mon regard? Vers moi-même? Vers toi-même? Ou vers ceux qui t'entourent? L'orgueilleux tourne son regard vers lui. Il pense à lui. L'humble tourne son regard vers les autres. Il pense aux autres. Philippiens 2, verset 3 à 4 nous dit « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Une leçon précieuse que j'ai apprise avec les années, c'est de toujours regarder les forces de ceux qui m'entourent. Et pas de regarder toujours leurs faiblesses. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les faiblesses des autres, ça fait naître le sentiment d'orgueil en nous. Je suis meilleur que lui. Ça fait naître la critique. On regarde ce qu'il fait à lui. Mais quand on regarde les forces des autres, ça fait naître l'humilité en nous. Ouah ! Ça fait naître le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qui est fait. Regarder les forces de l'autre au lieu de regarder ses faiblesses. C'est une leçon importante que j'ai apprise. Je me souviens de certaines personnes qui, à vue humaine, peut-être semblaient tellement faibles, tellement désespérées, et qui pour moi ont été des exemples, parce que je me suis rendu compte de leur dépendance avec Dieu, de leur amour pour leur Seigneur. Et ça, c'est une leçon importante aussi que j'ai apprise. En conclusion, rester dans l'humilité et ne pas succomber à l'orgueil est un combat de tous les jours. Voici une liste faite par Neil Anderson de péchés d'orgueil, dans lesquels nous pouvons tomber. Ressentir un désir plus vif de faire ma volonté plutôt que celle de Dieu. M'appuyer exagérément sur ma propre intelligence et mon expérience plutôt que de rechercher la direction de Dieu par la prière et sa parole. Compter sur mes propres forces et capacités au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Me soucier davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. Être trop occupé à faire des choses importantes et égoïstes pour prendre le temps de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Avoir tendance à penser que je n'ai aucun besoin. Trouver difficile d'admettre que j'ai tort. Me soucier davantage de plaire aux gens que de plaire à Dieu. Me préoccuper de façon excessive d'obtenir la reconnaissance que je pense mériter. Me trouver plus humble, spirituel, religieux ou dévoué que les autres. Chercher à être reconnu grâce à des diplômes, titres, positions sociales. estimer en général que mes besoins sont plus importants que ceux de quelqu'un d'autre, me considérer meilleur que les autres en raison de mes capacités et réussites universitaires, artistiques, sportives, etc. Que dans la prière, nous puissions confesser à Dieu notre péché d'orgueil. Peut-être qu'il fait partie de cette liste. Peut-être que c'est encore autre chose. Que nous puissions demander à Dieu son aide pour revenir à une véritable humilité, à l'image de notre Seigneur et Sauveur, dont il est dit en Matthieu 21, verset 15, 5, pardon, « Dites à la communauté de Sion, voici ton roi, Timothée, si tu veux bien, voici ton roi qui vient à toi, humble. » Que nous puissions pendant peut-être un temps, maintenant, réfléchir sur cette liste, réfléchir sur notre propre cœur et méditer sur l'humilité de Christ, lui le Tout-Puissant, lui le Roi. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter « Te ressembler, Jésus ». Et pendant qu'on va chanter ce chant, la collecte va passer. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.
Mon espoir suprême. plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi.
J'invite Jean-Marc qui va nous faire quelques annonces concernant Noël en fête.
Bien. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez vu le rouge se porte sur n'importe quoi. Hein. Michel, tu peux te lever s'il te plaît, Michel. Regardez, oui, Michel. Avec collier, le rouge va très bien. Claire, tu peux te lever s'il te plaît. Avec du orange, le rouge va très bien. Rouge sur noir, c'est pas mal aussi. Je vous assure, portez du rouge. En tout cas, on vous encourage vraiment à participer à cet événement, à ce festival qu'on a voulu organiser à cette fin d'année avec plein d'activités. Et il y a eu notamment ce week-end une braderie brocante de vêtements, de livres, de jouets pour enfants dont on vous parle depuis longtemps maintenant. Ça y est, elle a eu lieu. Et elle a très bien marché, en particulier hier, avec beaucoup de contacts. On a pu parler du Seigneur à beaucoup de monde, invité aussi pour le reste des activités, pour les enfants, pour les adultes aussi. Et ça a été vraiment une journée qui a été bénie par notre Seigneur au niveau des contacts et puis aussi des ventes pour Madagascar, puisque ça, on l'a fait au profit de l'orphelinat de Madagascar. Donc, il y a une certaine somme d'argent. J'ai le montant, mais on en parlera plus tard dans l'année quand on fera un petit bilan de tout ça, qui partira pour cet orphelinat. Et donc voilà, on veut vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Et on peut dire mission accomplie. Et un